René Leys. Est-ce les leçons magistrales du vieux Wang, l'influence de Dame Wang, la précision des conseils du jeune Belge, ou la loquacité furteuse de ses amis, ou l'air pénétrant, les effluves lettrées de Peking? Le fait est que je progresse en cette langue pratique, puisqu'elle annule la syntaxe en réduisant toutes les règles à trois, et que je m'éprends tout d'un coup de style écrit, ayant découvert une architecture et toute une philosophie dans la série ordonnée des caractères. Enfin, j'en arrive à traiter mes professeurs comme il convient, en simple lexique, en outil bon ou mauvais, en machine parlante et récitante. Ainsi, Maître Wang, nous avons vu l'autre jour ce qu'il y a dans le palais. Nous pourrions aujourd'hui énumérer ce qui existe hors du palais. Maître Wang approuve et récite. Hors du palais, il y a l'Empire. L'Empire a ses frontières. Dans les frontières, 18 provinces. Chaque province a une capitale de province, des préfectures de premier ordre, des préfectures de second ordre. Oui, comme les concubines. Quel empire bien ordonné! J'aimerais mieux un peu plus d'imprévu. Maître Wang ne comprend pas mon essai timide de traduction du mot imprévu. Tout comme impossible en français, imprévu ne serait-il pas chinois? Il y a bien les sociétés secrètes. Avoue enfin, Maître Wang. Il y a des gens qui donnent de l'argent et font partie de réunions où l'on parle. Il propose que l'empereur soit un Han Zheng, un chinois. Mais ces gens perdent leur argent, et quelques-uns d'entre eux vont en prison et perdent leur tête. J'ajoute un peu à l'aventure. Il y a aussi Yuan Chekai. Mon professeur me donne aussitôt une leçon, par l'air distant dont il reprend le nom. Yuan Chekai, c'est un ancien fonctionnaire de l'Empire. Il est en congé. Et confidentiellement, il a une jambe bien malade. Je sais, Yuan Chekai est politiquement bien mal en point. Sa jambe malade, c'est une apocope toute littéraire, un euphémisme. Jambe est ici employée comme figure de rhétorique à la place de tête. La tête, cet organe si important et cependant si fragile dans l'histoire ancienne de la Chine et des hommes. La tête, cette calebasse pédiculisée, toute prête pour le couperet, avec ce trou préparé pour le poison, la bouche. Tout ceci intraduisible en jeu de mots chinois. Il faudra que j'en parle en bon français à René Leys. Un entracte dans mon emploi du temps. 2 heures. Le voici, ponctuel à la leçon. Voulez-vous que nous fassions aujourd'hui une liste nominale des partis politiques de l'Empire ? René Leys me toise d'assez haut. Des partis ? Je n'en connais pas. Il y a la cour, la dynastie Manchu et des rebelles. Mais parlons donc des rebelles. Il répond avec négligence et ce qu'il dit ne m'apprend rien de plus. Les sociétés secrètes paraissent former des clubs tout à fait comparables aux loges maçonniques américaines et mélanger en un seul saladier la réclame purement commerciale des mercantiles de canton à la raison sociale biblique, Jéhovah Business et compagnie. En vérité, ceci ne m'apprend rien de nouveau. Alors, j'insiste sur le mouvement d'idées que l'on appelle révolutionnaire, et spécialement sur la personne d'un certain commis-voyageur en pacotille, 89 et droits de l'homme, qui dit s'appeler Sun Yat-sen. Sur son propos, René Leys est particulièrement méprisant. Je l'approuve. Il ne dira jamais de ce personnage électoral, à peine éligible, tout le mal politique, moral esthétique et sociale que j'en pense. Mais j'ai mieux à lui soumettre. Je reprends ma question. Et Yuan Chekai, que faites-vous de Yuan Chekai? Il sourit. J'attends. Il daigne enfin me répondre. Yuan Chekai, une invention des Européens. Oh, c'est un peu vif. Yuan est tout autre qu'un fantoche. C'est précisément ce qui m'intéresse en lui. Yuan est un mandarin de l'ancien régime, un fondé de pouvoirs impériaux. Yuan a d'abord été l'élève de Li Hongchang, un maître. Vous êtes trop jeune, mon cher Leys, pour avoir connu Li Hongchang. Ensuite, Yuan s'est trouvé tout seul, séparé de son maître, en Corée, à Séoul, comme commissaire impérial. N'oubliez pas qu'il a fait, le premier, tirer le canon contre les Japonais. C'était une responsabilité, cela. Il fallait défendre la Corée. Ce fut un tort. Nous avons été battus. Nous? Tiens. Seriez-vous chinois, mon cher Leys? Ensuite, en 1900, comme vice-roi du Shandong, avouez qu'il a pris parti pour les Européens. Il ne répond rien. Était-ce un nouveau tort? Je sais bien qu'en 1898, il avait également pris parti pour l'empereur contre la vieille douairière. Et je sais encore qu'à la mort de l'empereur et de la douairière, il a failli, ou même il a bel et bien été condamné à mort, et que sa peine fut précisément commuée en une convalescence, qu'il s'est retiré depuis dans ses terres. Mais savez-vous ce qu'il y fait? Comment un homme de sa valeur et bien portant, de 50 ans à peine, comment un homme de son école peut-il accepter? René Leys me toise de nouveau. Yuan est une invention européenne. Il y a dans Peking des gens beaucoup plus redoutables qui ne sont pas retirés dans leurs terres. Ils n'habitent malheureusement pas la province, ni la ville chinoise, ni la ville mandchoue, ni la ville impériale. Ils résident dans le dedans. Oh, mais vous savez bien que dans le palais il n'y a que des femmes et des eunuques, et un empereur de 5 ou 6 ans d'âge, infantile, et de 4000 ans de raison historique. Il paraît que ni l'empereur, ni les eunuques, ni les femmes n'en veulent au régent. Mais quelqu'un. Il me semble que le régent possède pourtant des droits de surveillance ou de défense sur toutes les personnalités chinoises ou mandchoues. Mais de quelle race s'agit-il? Mandchoue, répond René Leys. Puisqu'elle habite le palais. Elle habite. Une femme alors? Évidemment. Le seul mâle du palais est l'empereur. Eh bien, mon cher Leys, le régent dispose d'un moyen de sécurité politique, historique et discret. Il y a des puits au palais? Comment le savez-vous? Demande-t-il en tressaillant. Il y a des puits, comme dans toute la plaine environnante. C'est le même terrain, et l'eau des lacs ne suffirait pas. Eh bien, pourquoi cette personnalité gênante, ou même dangereuse, n'est-elle pas déjà mise à l'ombre, au fond d'un beau puits d'eau fraîche? J'en ai vu, au temple du ciel, de remarquables. Une énorme margelle de marbre monolithe, comme un tambour de jade, comme une grosse bague de pouce pour tirer de l'arc, et qu'on aurait bien posé à plat avec ses centaines d'encoches lissées par la corde, celle du puits. Vous savez, la corde qui file dans la terre jusqu'à la nappe où l'on voit un pan de ciel. Et quand on relève la tête, on perce également à travers le toit du kiosque par un trou de même diamètre que la bague et l'on s'attend, par réflexion inverse, à voir le puits se tourner bout pour bout et se forer dans le ciel qui reflèterait l'eau du puits. Je m'arrête. René Leys, pâle et les yeux grands ouverts comme 2 puits d'ombre, me regarde, ou regarde je ne sais quoi. Il a peur. Il va défaillir. Je ne peux me croire en cause. Il a déjà dû penser à tout cela. Peut-être une peur d'enfance lui revient tout à coup. Faut-il le gronder ou lui jeter de l'eau à la figure? Il se détend et reprend machinalement, non pas ce que je viens de dire, mais où je m'étais arrêté avant de jeter le mot malencontreux. Le régent dispose d'un moyen de sécurité, mais le régent ne sait encore rien. Eh bien, et sa police secrète? Ses moyens d'action s'arrêtent là. Où est-ce? Là? Là où se trouve cette personne? Enfin, oui ou non, dans le palais? Oui. Ceci est posé d'un ton définitif, comme il sait parfois en avoir pour couper court à tous les doutes. Mais si la police n'y peut rien, si le régent ne sait rien, si les bombes continuent cependant à pleuvoir, je ne vois vraiment aucune issue. J'en ai trouvé une, poursuit René Leys, debout, et qui a revêtu son allure nette et élancée. Voulez-vous m'accompagner demain au théâtre? On donne depuis 8 jours une grande pièce ancienne. Vous en verrez l'apothéose. Mais avant elle, un jeu de scène tout moderne qui vous expliquera. Bien, à demain, ou plutôt à ce soir. Je ne sais pas si je coucherai ici ce soir. Alors, où couchera-t-il? 17 juin 1911. Par exemple, qu'est-ce que cet autre vient encore faire chez moi? Cet autre, c'est le fonctionnaire chinois Jarignou, dont la carte à double face me paraît chargée de titres encore plus importants et neufs, dont il veut sans doute me faire part. Je m'y attends. Je suis prêt. J'écoute. Non. Il vient, dit-il en s'excusant rondement, il vient me donner des nouvelles de M. Leys, le père, qui, ayant eu l'honneur de me recevoir chez lui, me salue bien. Enchanté. Mais pourquoi donc Leys père a-t-il pris comme intermédiaire à Peking ce gros homme qui jurait, il y a un mois à peine, ne pas connaître, mais du tout, notre Leys fils? Il m'écrit, dit l'intermédiaire, des choses fâcheuses. Voilà tout d'un coup qu'il se remarie, comme ça, du jour au lendemain. Il serait bon d'exprimer quelques condoléances. Je n'ai pas le temps. L'autre poursuit. Alors, il a de grandes dépenses à faire, et il demande à son fils de continuer régulièrement ses envois d'argent. Il craint aussi que ce garnement ne fasse des dépenses exagérées avec les filles. Il n'a pas tort. Ce petit Leys est un sacré noceur. Il passe toutes ses nuits à Tianmenhuai. Oh! Comme j'ai l'honneur de vous le dire, monsieur! Il est entouré de galopins chinois de son âge. Il boit, il entretient des chanteuses, monsieur. Il dépense là tout son argent. Non, vous ne le connaissez que 2 jours. On dirait un garçon bien rangé, n'est-ce pas? Un vrai professeur. Si vous saviez la guinguette qu'il mène après 10 heures du soir. Et monsieur Jarignou, au nom du père épicier, se lamente, se désole, s'indigne d'un aussi mauvais emploi de fonds. Il faut bien répondre quelque chose. Monsieur Jarignou, permettez-moi une question très indiscrète. Mais vous m'avez dit l'autre jour avoir épousé quelques femmes. Comment se porte madame votre 3e épouse? Jarignou est moins à son aise. C'est donc que la 3e épouse ne va pas. Je n'insiste. Il revient assez lourdement. Enfin, le jeune Leys donne de grandes inquiétudes à son père, et son père me charge, monsieur, de vous demander d'avoir un peu l'œil sur lui. Allons donc, mais c'est impossible. René Leys est mon professeur. Je le respecte. Pourquoi voulez-vous que ce garçon, qui s'est fait une existence très honorable ici, s'encombre de sa famille? Il se fait un silence embarrassé. Jarignou a sué, évidemment, tout ce qu'il avait préparé de me dire. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est ce souhait, inexprimable, qu'il remette le moins possible ses pieds chez moi. À propos, si vous voulez approcher des Chinois, permettez-moi de vous dire que je viens d'être distingué. Pas possible. Ceci non plus n'est pas exprimé. Par le ministre des Voies et Communications, et que j'ai reçu avant-hier la décoration de 5e classe du double dragon. J'attends moi-même, avec une patience de dragon, qu'il s'en aille. Il s'en va. C'est long. Long égale dragon. Encore un jeu de mots intraduisible en chinois. Il me reste maintenant à oublier sa visite et son dénigrement, qui ne désabusent pas ma sympathie, bien au contraire. Même soir. Comme s'il tenait à se justifier ce soir, voici qu'il m'arrive de bonne heure. Ou bien est-ce la pluie qui s'annonce et l'orage qui va crever ? Je lui montre son couvert. Il refuse de se mettre à table en face de moi. Il a dîné de bonne heure avec de nouveaux amis mandchous. C'est possible, mais il a du mal dîner. Qu'est-ce que cette mine éteinte et ses yeux battus ? Je suis sûr qu'il a pleuré. Il s'assied, il ne dit rien. Je me garde de l'interroger. Il veut parler. Alors j'interromps. « Mon cher, nous serons mieux sous la véranda pour causer tranquillement. » Pas dans la cour. Il va tomber des cataractes. Laissez desservir. Nous mettrons la lampe à l'autre bout pour bien attirer les moustiques. Et... tenez, prenez la chaise longue. Il s'étend. Il ne dit rien. Il y a dans mon ciel noir un bouleversement tendu vers l'orage que nous sentons bien tous les deux. C'est pour cela que j'ai parlé avec douceur. Il s'étend comme un enfant fatigué. Il dormirait tout de suite, là, s'il n'avait, je le sens, très envie de raconter son intrigue, sans doute parmi les vierges de Tianmenwai. Je vois qu'on lui a fait de la peine. Il dit enfin, « J'ai reçu aujourd'hui une lettre qui me fait beaucoup de chagrin. Oh, si elle se mêle d'écrire aussi, mon père m'annonce qu'il va se remarier. » C'est vrai, il a un père, et je sais déjà la nouvelle. Eh bien, René Leys devine que la nouvelle ne me consterne pas. Pour me faire partager son émotion, il me parle de sa famille. Il parle de la même voix confidentielle qui, l'autre soir, ouvrait des portes au palais. Mon père a tort de se remarier. On sait bien ce qu'il épouse. Une fille qu'il a connue autrefois dans une tournée d'achalandage à Louvain. Et ma mère vivait encore. Ceci ne me semblerait point offensif si je ne devinais au fond de cette jeune âme demi-belge ce débat. Sa mère était française et il ne veut pas être belge. Ceci peut-être l'empêchera de jamais devenir chinois à la façon de Jarignou, son ami. Enfin, ce sont un peu ses affaires. Et surtout, la vie intime d'un commerçant veuf qui reconvole n'a pour moi, ce soir en particulier, aucun intérêt poignant. Si nous parlions d'autre chose. Ce qui m'ennuie, insiste René Leys, c'est que mon père me fait des reproches sur la façon dont je vis. Je ne sais pas ce qu'on a pu lui écrire. Il m'accuse de compromettre ma situation à l'université. Oh, s'il savait. Enfin, nous y voilà. Mon père me traite comme un petit garçon. Je ne peux pas lui raconter ce qui m'arrive. Il irait le crier sur tous les toits. Mon père croit que, si je quitte à mes cours, je n'aurai plus aucune position. Oh, s'il savait. Et brusquement, avec la simplicité énergique de l'enfant qui passe sa manche sale sur les yeux, reprenant sa voix et son calme, René Leys redevient lui-même, précis et informateur. Ce qu'il ne peut pas écrire à son père, il faut bien qu'il le dise à quelqu'un, à moi. C'est assez considérable. ce garçon de 18 à 20 ans, cet étranger, ce barbare, ce belge, vient d'être nommé aujourd'hui même à de hautes fonctions dans la police secrète de Peking. Je m'y attendais un peu. Cela explique bien des choses, mais je n'aurais jamais inventé le détail. Se doutant depuis plusieurs mois que la vie du régent n'était pas en sûreté, il s'était, par amitié pour le frère de son ami, l'empereur mort, donné comme devoir de la protéger. Il écoutait ce qui se disait parmi les neveux et fils de princes, et les eunuques, et les femmes, surtout aux fins de repas arrosés de vin de rose. Il avait eu l'idée de prier les chanteuses de bien écouter aussi. Et, la veille de l'attentat du pont de Heumen, la belle policière, que j'avais tenue à distance dans mes mains, dénonçait fort à propos la machine. Et lui, René Leys, passant toute la nuit aux aguets, coupait les fils et sauvait le régent. Je comprends, après ce premier succès, combien peut être solide sa situation officieuse. Je le complimente. Il poursuit. Ce résultat lui donne confiance. Il va multiplier les policières dans les maisons de Tianmenwai. On peut compter sur elles. Il les paie, et elles obéissent mieux que des hommes. Ainsi, pureté indiscutable ne se livrera à l'acheteur qui l'aime qu'au jour dit. Déconvenu, il n'y a donc plus d'étranges amours, seulement, dans toute la rigueur et la probité du terme, une simple livraison. J'apprends, de plus, que la police secrète du régent est une sorte de ministère des mieux organisés, qu'il a ses bureaux, ses fonctionnaires, ses commis, ses employés. J'ajoute, ces écoles ? Oui. Comment le savez-vous ? Oh, j'ai aussi ma police. Continuez. J'apprends aussi comment René Leys s'habille pour être reçu par le régent, en mandarin de quatrième classe. Avec ou sans décoration ? Je veux dire, a-t-il obtenu une distinction équivalente de celle de quelqu'un que je sais, le fonctionnaire chinois Jarignou ? Il ne comprend pas. Je précise. L'ordre du double dragon. Comme il semble me mépriser. Ça, c'est fait pour les Européens. Un Roumain à valeur de sabre, qui a beaucoup amusé le régent le mois dernier, vient de recevoir ça. Et un autre, l'employé français Jarignou, celui que les Chinois traitent comme un coolie depuis qu'il s'est fait chinois. Il est fort bien renseigné, et moi-même de plus en plus. J'apprends ce qu'il fait d'une partie, la plus copieuse, de ses nuits. Il se rend au bureau central de la police secrète. Il prononce familièrement de la PS et dépouille les rapports qui viennent s'y concentrer de tous les côtés, de tous les clans, de tous les recoins des Yamens, de toutes les cuisines et conciergeries des légations européennes, américaines et nippones. Le personnel est inégal. Dans les hauts grades, ce sont de grands mandarins. Tout en bas, des palefreniers, des valets, qui, recevant une lettre apportée, la transmettent tout droit au bureau central, où elle est habilement décachetée. Opération fort délicate, car le papier chinois craint la vapeur. Puis enregistrée, lue, copiée, et d'où elle parvient, avec à peine une heure de retard, à son destinataire, dont la réponse suit une étape identique. Chacun de ces honorables fonctionnaires, grands ou petits, est redevable d'un rapport mensuel. Il le communique à son supérieur immédiat, le seul qu'il connaisse, qui le fait parvenir à la tête, laquelle reste ignorée de tous les membres. C'est méthodique et bien administré. C'est d'un naturel évident. j'attachais peu d'importance aux quelques mots tirés à ce sujet de Maître Wang. J'éprouve tout d'un coup, pour lui, une certaine considération. Quant à l'endroit de René Leys, qui m'explique d'autorité tout cela, c'est de l'enthousiasme, de l'admiration prête à crever comme le gros nuage qui, insolemment, se promène dans la nuit supérieure. Il fait chaud et très noir, mais je vois clair. Voici la lumière et la porte et la pénétration. Voici mes entrées promises, le mur rouge, le mur jaune, le mur violet infranchissable, me semble tout d'un coup fait de réseaux délicats, transparents, que je perce et passe en jouant sous des costumes. Ma confiance n'a plus de bornes. Je saurai tout, je verrai tout. Je ne puis retenir de le complimenter. En somme, vous êtes chez vous, au palais ? Et j'attends un aveu total. Il pénètre jusqu'au grand conseil à chaque aube. Il jette des mots ou fait des signes et les eunuques s'inclinent très bas devant lui. Non, il paraît qu'il n'en est rien, qu'il y a, dans le palais même, des enceintes infranchissables à toute la police du régent et même au régent. Ne les franchissez donc pas. Et quel besoin ! René Leys devient excessivement sérieux. C'est que sa vie est en jeu tous les jours. Il faut bien arriver là d'où partent les coups. Et il ne se doute de rien. Avertissez-le. J'en ai peur. J'ai de la peine à l'effrayer une seconde fois. Si vous aviez vu son air tremblant et ses yeux, quand il a appris le lendemain qu'il aurait pu être touché, la même figure que son frère d'autrefois. Quand il a su que c'était moi qui avais coupé les fils, il m'a appelé son ami. Son ami, vous entendez ? J'entends. Ce mot prend, dans la bouche de mon futur ami peut-être, une sonorité belle. Il semble comprendre et accepter ce que le mot veut dire jusqu'au fond de son assonance. Alors, vous êtes l'ami du régent, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, si vous craignez pour lui des dangers que vous n'osez pas lui raconter, et puisque vous tenez un premier succès, allez jusqu'au bout. Faites-vous donner pour une nuit deux compagnies de la garde impériale. Cernez les quartiers du palais où se retranchent les dangers en question. Le feu prendra ce soir-là par la malveillance d'un eunuque jaloux ou de méchante humeur et qui sera bien payé ensuite. N'échapperont que ceux que vous laisserez sortir. Quand ce sera fini, on jettera de l'eau pour empêcher les kiosques d'alentour de flamber. Enfin, il ne restera pas grand-chose des dangers qui l'effraient, et vous serez promu. Je ne sais quoi, grand chef de tous les policiers des 18 provinces et pays tributaires. Allez-y, mon cher Leys, et votre fortune est faite. Je ne sais trop moi-même si, parlant ainsi, je plaisante ou prophétise. Simplement, j'entre dans le jeu. Mais je le regarde par hasard et je me tais, vraiment confus, presque apeuré tout d'un coup par sa figure pleine de peur. Il me regarde aussi. Je ne sais ce qu'il peut avoir à me dire. Il est effrayant. Les yeux caves, pleins de folie qui montent, la bouche tendue pour parler. Oh, drôle d'interlocuteur! Par le front rasé de son ami le régent, qu'il parle au nom de faux et des chiens de faux, qu'il parle, qu'il dise n'importe quoi. Il dit « Personne n'oserait. Vous savez qui habite là ?»« Non, c'est justement pourquoi mon conseil est désintéressé. » Le régent lui-même n'en parle qu'avec beaucoup de réticence. Vous ne savez pas de qui il s'agit ? Non, je vous le répète. vous ne savez pas. Je termine pour lui et n'ai que tout juste le temps de l'étendre sur sa chaise que j'ai choisie longue, heureusement. C'est la crise, la bonne crise, avec larmes et gros sanglots. Bien, qu'il pleure. Ensuite, il dormira. Si j'étais poète, je me demanderais aussitôt où est la source de ses pleurs et verserais à mon tour, en guise de localisation lacrymatoire, des fontaines d'alexandrins coulants et clairs. Enfin, le voici calmé, assagi, trop sage et trop petit garçon. « Excusez-moi, ce sont les mauvaises nouvelles que j'ai reçues aujourd'hui. Je ne peux pas admettre que mon père veuille se remarier. Oh, je m'en remets encore moins d'une secousse telle. Cette nuit de confidence et d'orage, cette nuit d'obscure beauté où ce jeune homme m'avoue enfin ce qu'il est, où je devine ce qu'il deviendra, ses projets, cette crise, tout cela conclut par un faire-part dramatique de remariage paternel. Ah, je ne sais plus. Il doit être bien fatigué de ses larmes. Quant à la personne d'où vient, pour le régent, ce danger jusqu'ici assez anonyme, je me donne congé d'y penser, puisque lui-même, qui s'en préoccupe, y mélange des bigamies posthumes d'épicier. Et pourtant, je voudrais bien savoir lequel des deux a déclenché à point cette crise. Lui a été vraiment épouvanté de ce que j'ai dit. Remettons-en l'exégèse à plus tard. Pour aujourd'hui, ou plutôt à l'heure de cette nuit, il dort. Je le fais très doucement porter dans son lit. Et j'attends, livré à moi seul, que les nuages, électrisés et chargés d'eau, crèvent enfin et forment crise, résolvant de leurs pleurs souverains l'angoisse tout intellectuelle qui se gonfle de cet objet. Lui, ce qu'il dit, ce qu'il paraît être, ce qu'il est. J'attends un long temps. Les gros nuages ne crèvent pas. Aucune éclaircie là-haut. En moi, aucune détente ?